Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Hébreux chapitre 12. Mais ce matin, nous allons faire du sport. On n'a pas l'habitude, hein. On va gravir des montagnes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire encore, hein? On va en faire des choses ce matin. Hein, voilà. Mais tout en restant dans la parole de Dieu. Hein, voilà. Et donc... Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, pour que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Merci Seigneur de ta grâce, de ta puissance, de ta présence. Et de ces trésors extraordinaires que tu as cachés dans ta parole et qui ne demandent qu'à être découverts, qu'à être ouverts, et où tu parles à nos cœurs et à nos consciences et que tu nous conduis à aller de l'avant avec toi, Seigneur, et à glorifier ton nom. Seigneur, sois béni, sois glorifié, exalté en toutes choses, et parle à nos cœurs et guide-nous ce matin au nom de Christ. Amen. Alors, je voudrais parler ce matin du passé, du présent et de l'avenir. Hein. Et donc, ce passage-là nous parle du passé et il nous parle même des Jeux Olympiques. Hein, parce que quand il dit « courons avec persévérance », il a en vue les Jeux Olympiques. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'en région parisienne, il va y avoir les Jeux Olympiques, hein, 2024. Il y en a un qui le sait, les autres, vous le savez pas. Hein. Tout le monde le sait. Hein, voilà. Et que il y a 100 ans, il y a déjà eu les Jeux Olympiques ici, hein, en 1924. Hein, voilà, c'était à côté. À Colombes, voilà, c'est ça. C'est juste à côté, à Colombes. Hein. Qui est-ce qui a gagné le 200 et le 400 mètres, médaille d'or? Hein? Hein? Non, un Anglais. Écossais même. Eric Liddell. Hein? Et c'est le thème du film Les chariots de feu. Merci, voilà. Hein? Et donc, ça raconte comment, à Colombes, hein, il a gagné. Il voulait pas courir le dimanche, donc c'est un ami à lui, un juif, mais un anglais aussi, hein, qui a gagné le 100 mètres. Et lui, il a gagné le 200 et le 400. Hein, voilà. Et ensuite, le Seigneur, quelque temps après, il a fait des conférences en Angleterre, et hop, le Seigneur l'a envoyé en Chine. Hein, voilà. Un destin étonnant, hein, que celui d'Eric Liddell. Et donc, pour l'année prochaine, vous pouvez prier pour ça, 2024. On pense avec notre association qui fait des expos Bibles à faire imprimer aussi un petit évangile pour les Jeux Olympiques avec le témoignage d'Eric Liddell. Voilà. Donc priez pour ça. Hein. On est en train de travailler là-dessus. Hein. Et donc comme ça on le donnerait. Nous on va pas venir distribuer. On le donnerait aux églises de la région parisienne. Hein, ce serait gratuit normalement, hein. Et vous pouvez distribuer. Si vous savez qu'un hôtel, il y a soit des athlètes, soit des touristes qui viennent, ou à vos amis, hein, vous pouvez le donner. Donc, bon, je vous en parle là, c'est l'année prochaine, hein, mais voilà, déjà, il faut y penser parce que là, il y aura du monde, il y a du monde entier qui va venir entendre l'Évangile. Hein. Enfin non, non, ils vont venir pour le sport, hein, voilà, et le plaisir, hein, Paris, etc. Mais qu'ils entendent aussi l'Évangile, voilà. Et c'est une occasion unique pour ceux qui viennent des pays musulmans qui n'ont pas le droit d'entendre l'Évangile, hein, et bien de recevoir un petit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Priez pour ça, hein, voilà. Et donc là, Paul est en train de penser aux Jeux Olympiques. Parce que à son époque, en Grèce, alors les Jeux Olympiques ont été inventés en quelle année? Je vais vous faire réviser un peu pour vous soyez prêts pour l'année prochaine. Hein. Ça a été inventé en quelle année?
1896.
Oui, mais les Jeux Olympiques antiques. Ah, mais ce que tu dis est vrai, hein, c'est Pierre, le baron Pierre de Coubertin. Hein. Hein, voilà, et j'habite rue Pierre de Coubertin, donc c'est facile pour moi de m'en rappeler. Hein. Mais c'est le baron Pierre de Coubertin qui a relancé les Jeux Olympiques à Athènes. Hein, voilà. Mais les premiers Jeux Olympiques ont été, que l'on sache, hein, ont été inventés en 771 avant Jésus-Christ à Olympie. Hein. Et j'ai pu, grâce à Dieu, en 2018, aller à Olympie et voir le premier stade olympique. Et même là-bas, ils se demandent si c'était pas un petit peu avant encore. Hein, voilà. Alors, vous direz à vos amis, si vous croyez que la Bible c'est ancien, les Jeux Olympiques c'est encore plus ancien. Hein. C'est pas moderne du tout. Ça date de 771 avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Hein? Et voilà, voilà. Exactement. Et donc, il y avait les Jeux Olympiques, mais il y avait trois Jeux à l'époque de Paul, les Jeux Pythiques qui se déroulaient à Delphes et les Jeux Ismiques qui se déroulaient à côté de Corinthe. Hein. Et donc, lui, comme il habitait à Corinthe, il a été aux Jeux Ismiques, et peut-être qu'il a été aux autres, mais en tout cas aux Jeux Ismiques, il y a été. Hein. Et il savait comment c'était. Alors, il y avait beaucoup moins de disciplines. Hein. Il y en avait 12 disciplines. Il y avait, bien sûr, la course à pied. Il n'y avait pas encore le marathon. Ça a été inventé plus tard. Hein. Mais il y avait le pugilat, qui est une sorte de mélange, une sorte de boxe. Il y avait la lutte, le lancer du disque, le lancer du javelot. Voilà, ça existait déjà, etc. Hein, voilà. Et donc... et donc Paul est en train de voir la course, hein, et il dit regardons la course qui est devant nous, regardons la course qui est devant nous. Hein. Si vous allez à Olympie, vous avez encore les starting blocks qui sont là, hein, et donc vous mettiez les pieds dedans, hein, c'était juste des fentes, hein, vous mettiez les pieds dedans et vous partiez à la course. Alors quand on regarde la course, quand on fait la course, est-ce qu'on regarde en arrière? Hein? On regarde en avant. Hein? Et le Seigneur nous appelle à regarder en avant. Hein? Il dit même, rejetons tout fardeau. Hein? Qu'est-ce qui nous ralentit dans notre vie chrétienne? Hein? Hein? Les inquiétudes, les soucis. Le diable nous rappelle nos fautes passées. Il nous dit, oui, mais toi, tu vas à l'église, mais tu te souviens que tu as fait ça? Hein? Et des fois, on sait que c'est sous le sang de Christ, mais des fois, on oublie. Hein, et on se laisse ralentir par le diable. Hein. Et puis, il dit aussi, ne vous chargez pas de fardeaux. Quand quelqu'un va faire le 100 mètres, et encore moins le marathon, hein, est-ce qu'il va prendre son téléphone portable, remplir ses poches avec des bonbons, je sais pas quoi, prendre un Walkman et tout ça pour... Non, rien du tout. Hein. Au temps des Jeux Olympiques, on courait tout nu. Voilà, il n'y avait rien. Hein. Et il n'y avait que la course qui comptait et on partait devant. Hein. Et comme aujourd'hui, ils avaient en vue... La joie qui leur était réservée, c'est quelle joie qui leur était réservée? La victoire. Eh oui, eh oui, eh oui. Et quand on gagne les Jeux Olympiques, hein, est-ce qu'on s'est préparé 3 mois avant? 10 ans, 20 ans avant, hein, on s'entraîne, on se prépare. Les entraîneurs vous sélectionnent, ils vous préparent, ils voient vos faiblesses, ils voient vos qualités, ils travaillent, hein, pour vous aider à gagner. Voilà. Et donc, ce passage nous rappelle à rejeter les fautes et les fardeaux, les poids du passé, et d'avoir les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, ou dans l'ancienne traduction, c'est le chef et le consommateur de votre foi. Hein, voilà. Et donc, et puis le long du, vous savez, vous avez le stade, ça s'appelait un stade, hein, parce que ça mesurait un stade. Et donc ça s'appelait comme ça. Le long du stade, il y avait des piédestaux sur lesquels il y avait des statues. Et c'était quelles statues qu'il y avait ? Non, ce n'était pas des divinités aux Jeux Olympiques. C'était qui ? Voilà, les grands vainqueurs. Si vous gagniez une seule épreuve, vous aviez droit à la couronne de laurier, comme dans Astérix, c'est vrai, c'est vrai. Si vous gagnez 5 épreuves, vous aviez droit à un buste, et plein d'autres choses, on vous donnait une maison, des serviteurs, enfin il y avait plein de choses, mais en tout cas, vous aviez droit à un buste au bord du stade. Et si vous en gagnez 10, vous aviez droit à une statue en pied. Et on en a retrouvé quelques-unes à Olympique qui sont restées des grands athlètes du passé. Et donc, carrément, sur un piédestal, vous étiez debout. Et donc, quand vous couriez, vous regardiez ces athlètes du passé et vous disiez, mais j'aimerais être comme eux. Mais il faut aussi vivre les mêmes sacrifices, faire les mêmes efforts, renoncer aux mêmes choses pour arriver aux mêmes résultats. Et l'apôtre, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, alors certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Apollos, je ne vais pas me prononcer, mais celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il nous dresse une rangée de statues. Où elle se trouve cette rangée de statues ? Voilà, le chapitre juste avant, chapitre 11. Et Paul nous parle... Paul, excusez-moi, je dis toujours Paul, mais c'est peut-être pas Paul. Voilà, celui qui l'a écrit nous parle de Abel, nous parle de Hénoc, nous parle de Noé, nous parle d'Abraham et de Sarah, nous parle d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü, de Joseph, de Moïse... qu'est-ce qui est encore, et puis ça continue, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, etc. Il n'a pas le temps de parler de tous, mais tous ces gens sont ceux qui ont couru la course avant nous, et qui sont arrivés au bout, et qui nous disent, est-ce que ça a été facile ? Non, ça n'a pas été facile, on a toute leur vie dans la Bible, on sait comment c'était, est-ce que ça valait la peine ? Et ils nous disent tous un grand « oui, ça valait la peine ». Le jour de la transfiguration, Jésus était là, englobé de lumière, et avec lui, il y avait deux hommes. Qui étaient-ils ? Moïse et Élie, qui chacun avait vécu une vie pas facile. Moïse a passé 40 ans à garder les moutons dans le désert. Élie a été rejeté, il a failli mourir de la famine. Ces gens ont souffert, mais ils ont eu la victoire, et ils sont là dans la gloire avec le Seigneur, et ils nous disent, ça vaut la peine, ça vaut la peine. On peut se faire glorifier par les gens de ce monde, et on aura une gloire qui va durer... Pas longtemps. La gloire de cette terre, ça dure peu de temps, et après, c'est fini. Jésus l'a dit, malheur à vous si les hommes disent du bien de vous. Malheur à vous. Ce qui compte, c'est la gloire après. Et c'est de rester fidèle, mais notre course à nous, c'est un peu comme un super marathon, c'est-à-dire ça dure pas 100 mètres, ça dure pas, le marathon c'est 42, voilà, et c'est 60 ans, ou plus, voilà, avec le Seigneur, en restant fidèle, alors c'est un marathon de vie, mais en restant fidèle, on reste fidèle jusqu'au bout, et là, ensuite, se trouve la récompense, voilà. Et donc, on a plein d'exemples dans la Bible, je peux pas vous donner tous les exemples, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans le désert, les enfants d'Israël étaient esclaves de leur passé. Ils disaient, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. C'était des Français, ils pensaient qu'à manger. Et donc, dans le désert, ils mangeaient quelque chose de très bon, parce que la manne, c'était très bon, mais c'était tous les jours la même chose. Alors, à force, ils voulaient varier le menu, et ils se sont mis à se plaindre. Voilà. Alors, le Seigneur nous appelle à ne pas rêver aux poissons de l'Égypte, ou aux choses du passé, mais d'aller vers l'avenir. Certaines choses du passé sont finies, terminées, il faut accepter d'y renoncer, c'est fini, la vie continue, hein, voilà. Et j'aime beaucoup ce passage, et on va s'arrêter sur ce verset. 1 Samuel 7:12, dans le livre de Samuel, il y a eu une victoire éclatante contre les Philistins, et Samuel a rassemblé les enfants d'Israël entre Mitzpah et Chêne, et il a levé une pierre, hein, un peu comme nos ancêtres les Gaulois faisaient des dolmens et des menhirs, hein, voilà, il a levé une pierre comme ça, hein, et il a dit, voilà, cette pierre est un témoignage, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il a appelé cette pierre Ebenezer, qui veut dire la pierre du secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et aux États-Unis, vous avez beaucoup d'églises qui s'appellent comme ça, Ebenezer, parce que c'est des gens comme nous, des gens simples qui se sont mis ensemble et ils ont construit un bâtiment, ils ont appelé un pasteur et ils ont dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il nous a pas abandonnés, il nous a pas laissé tomber, il nous a secourus. Hein, même quand des fois, il te reste encore des cheveux Aldo, hein, mais des fois les pasteurs s'arrachent les cheveux. Comment on va faire, comment on va y arriver, comment on va boucler la fin de mois, etc. Jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, hein. Et chacun dans notre vie, nous pouvons dire, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Levez la main, qui est-ce qui peut dire, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru? Personne? Ah, si, quelques-uns, hein, voilà, voilà, hein. Et donc vous dites, avec moi, hein, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Ebenezer, le Seigneur m'a secouru et il m'a gardé jusqu'aujourd'hui, hein. Amen, hein, amen. Et ça, c'est le passé. Le Seigneur nous a secourus. Hein. On a passé des détresses, des maladies, hein. On est tous passés à l'hôpital, hein. Enfin peut-être pas, mais beaucoup. Hein. On a connu tout ça, le Seigneur nous a secourus. Hein. Accident de voiture, problème, voilà, le Seigneur nous a secourus. Hein. Et ça c'est merveilleux, le passé est entre ses mains. Et le diable veut nous faire peser sur nous le passé ou nous reprocher le passé. Le Seigneur nous dit c'est fini, hein. Jusqu'ici. Le Seigneur nous a secourus. Maintenant, tu vis aujourd'hui et tu vis pour demain, pour ce que le Seigneur a placé devant toi. Hein. Philippiens 3, 13, 14. Là, c'est vraiment l'apôtre Paul qui le dit. Hein. Mais c'est le même thème qu'en hébreu. Hein. Philippiens 3, 13, 14. Voilà, je vais vous le lire parce que je l'ai devant moi. Un frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours pour remporter la vocation de céleste en Jésus-Christ. Hein, merci Seigneur. Et oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors, il y a des psychologues qui étudient les êtres humains. On est des drôles de bestioles, hein. Et ils se sont aperçus que les gens qui ont une mauvaise mémoire sont plus heureux que les gens qui ont une bonne mémoire. Pourquoi? Hein, parce qu'on se décharge plus facilement du passé, on oublie. Hein, on oublie le mal qu'on nous a fait, on oublie le mal qu'on a fait, hein, on est plus heureux. Hein. Mais alors si on a une bonne mémoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, Paul dit, oubliez. Hein, demandez au Seigneur la grâce d'oublier, hein, le mal qu'on vous a fait ou le mal que vous avez fait. Laissez ça, c'est le passé, et maintenant vous allez de l'avant. Hein. Pour certaines personnes, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que pour certains, c'est lourd. Hein. Ils ont vécu des choses graves. Mais prier pour la grâce de Dieu, hein, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul a dit ça à Philippe, hein, il a écrit ça aux Philippiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Philippe, à Paul ? Eh oui, la prison, hein. Il a été battu de verges et mis en prison, hein. Il aurait pu dire, je vais plus jamais mettre les pieds chez ces sauvages, hein. Hein. Et c'était qui ces sauvages? Hein, c'était des Grecs, c'était des Européens comme nous, hein. Voilà, hein. Et si vous parcourez la France, hein, vous pouvez chercher des églises et des cathédrales. À Bayonne, c'est la cathédrale Saint-Léon. Chez nous, c'est Saint-Exupère, etc. Il y a toujours la même histoire. Quelqu'un est venu pour annoncer l'évangile et on l'a tué. Voilà. Hein. Et c'est souvent vrai. Hein. Le premier qui est venu, c'était un moine qui venait tout seul, pieds nus. Et puis, il a annoncé l'évangile. Les gens étaient contents. Et puis, boum, ils l'ont tué. Nos ancêtres, les Gaulois. Hein. Bon, je plaisante. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Et Paul, là, à Philippe, hein, il avait été battu de verge et jeté en prison. Hein, et au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait les louanges du Seigneur et priait. Hein. Voilà, hein, je ne sais pas si on fera la même chose. Hein. Merci, merci Seigneur de cette épreuve, on va chanter « À toi la gloire au ressuscité ». Ouh. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a déclenché un tremblement de terre, hein, comme en Turquie, hein, voilà, qui avait cassé toutes les, tous les liens. Et la prison s'est pas effondrée, hein, mais tous les liens, toutes les portes se sont cassées, ils ont pu sortir. Et Paul a dit « Ne vous enfuyez pas, restez là ». Et ils sont restés. Parce que tous les prisonniers se sont rendus compte que c'était un miracle, évidemment, parce que ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Hein. Là, quand il y a un tremblement de terre, c'est les immeubles qui tombent, mais pas les prisons. Hein. Voilà. Bon, je sais pas. Et donc, c'est le Seigneur nous appelle, voilà, laissez le passé en arrière et nous porter vers ce qui est en avant, et en disant, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Hein. Amen. Alors maintenant, on va prendre Jérémie chapitre 1. On va parler du présent. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et le mot qu'on trouve deux fois dans ce passage en hébreu, c'est le mot chakad. Vous en souviendrez, chakad? Hein? Et chakad, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'amandier et ça veut dire je veille. Parce que l'amandier s'appelle je veille. Alors à Argenteuil, il n'y a pas beaucoup d'amandiers. Mais si vous allez entre Perpignan, Béziers et Carcassonne, c'est la région en France où on a le plus d'amandiers. Et là où c'est remarquable, c'est en janvier, quand vous traversez cette région, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé pour visiter les églises là-bas, eh bien, en plein hiver, en janvier, qu'est-ce que vous avez? Ils ont fleuri, ils sont tout blancs, et c'est des arbres magnifiques en plein hiver, c'est tout blanc. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent « Je veille », pendant que tous les autres arbres sont endormis, eux, lui, ils se réveillent. Et le Seigneur dit, moi aussi je m'appelle, je veille. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Je veille. Et dans le tabernacle, je ne vais pas vous le faire lire, mais vous le lirez dans l'Exode et le Lévitique. Eh bien, le chandelier d'or qui est dans le tabernacle, c'est un amandier. Il y a des branches d'amandier, des tiges d'amandier, des fruits d'amandier. C'est quoi les fruits d'amandier? Des amandes. Hein, vous avez les fleurs, et dans, tout ça c'est dans le chandelier d'or, c'est un amandier. Et il était allumé là, dans le tabernacle. Donc si je venais d'entrer dans le tabernacle, il serait à gauche. Et à droite, il y avait la table des pains de proposition. Hein. Et jour et nuit, il était allumé et il éclairait en face. C'est écrit, j'éclaire en face. Hein. Et donc, il éclairait la table des pains de proposition sur lesquels il y avait 12 pains. Et que représentaient ces 12 pains? Les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire que Dieu dit, je veille sur mon peuple. Quand ils dorment, je veille. Quand ils sont réveillés, je veille. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et aujourd'hui, c'est plus Israël, c'est tous les chrétiens du monde. Est-ce que le Seigneur veille sur nous de la même façon? Le Seigneur dit, aujourd'hui, je veille, hein, je veille. Toi, tu peux dormir. On trouve même que quelqu'un dans la Bible, c'est les disciples avec Jésus dans le jardin de Gethsémané, il y en a qui étaient endormis de tristesse. Hein, voilà, ça peut arriver. Mais le Seigneur veille, hein, il veille, il ne dort pas. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Pensez à quelqu'un qui a eu tort de dormir, hein, c'était le géant Samson. Hein. Alors quand je pense à Samson, je pense à Teddy Riner. Hein. C'était pareil, hein, une armoire à glace comme lui, et il y a personne, hein, personne qui peut battre Teddy Riner. Eh bien Samson, c'était pareil. Hein. Il était la même corpulence, la même force, avec les cheveux longs. Il n'avait jamais coupé ses cheveux, et il y a absolument personne qui pouvait se battre avec lui. Il était plus fort. Il pouvait même arracher les portes d'une ville si ça lui plaisait. Hein. Et donc c'est et pourtant. Il était un colosse au pied d'argile. Il est tombé amoureux de cette femme, il a donné son secret et il s'est retrouvé esclave. Voilà. Et donc, parce qu'il a dormi, il s'est endormi chez cette femme, que le Seigneur ne nous trouve pas endormis chez le diable, endormis devant des choses à la télévision ou qui ne devraient pas y avoir, endormis devant je ne sais quoi dans l'ordinateur, endormis ou dans quelque chose qui est du monde, du péché, du diable. Veillez, le Seigneur veille, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Hein. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à veiller. Hein. Lui veille, mais nous, nous veillons. Hein. Jésus l'a dit, hein, veillez, vous ne savez pas quand je reviendrai. Vous ne savez, nul ne connaît le jour ni leur veiller. Soyez réveillés. Hein. Et ça, c'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Hein. Pour hier, il dit, Ebenezer, je suis intervenu, j'ai pourvu. Pour aujourd'hui, il dit, je veille, mais toi aussi tu veilles. Tu veilles, tu restes éveillé. Ce monde a besoin de témoins éveillés qui veillent et qui témoignent. Hein. Le monde n'a pas besoin d'un de plus qui leur dit « vivez pour le plaisir » ou je ne sais quoi, tout ira bien. Non, non, veillez, restez éveillés, avertissez. Hein. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 et chapitre 33, il est écrit « Je t'établis aujourd'hui comme une sentinelle. Hein. Tu dois avertir le peuple. » Et si vous avez fait le service militaire, ça c'est il y a longtemps, hein, eh bien, qu'est-ce que doit faire une sentinelle, hein? Il n'a que deux choses à faire. Hein? Ne pas s'endormir. Hein, le crime, c'est de s'endormir. Une sentinelle ne doit pas s'endormir, doit rester réveillée. Et deuxièmement, annoncer ou avertir en cas d'attaque. Est-ce qu'il peut lui-même repousser l'adversaire? Il est tout seul, il peut pas, mais il doit avertir. Ça, c'est une sentinelle. Et le Seigneur nous a choisis comme sentinelle. Hein. Il y a même un chant, on le chante pas beaucoup, mais moi je l'aime bien. « Je suis vivant, dit le Seigneur ». Je t'ai établi comme sentinelle sur ce pays, hein, et c'est vrai, hein, le Seigneur nous a établi comme sentinelle sur ce pays. Il nous appelle à veiller, hein, et à rester éveillé. Et puis, en revenant en Hébreu, chapitre 12, nous lisons que Christ est le chef et le consommateur de la foi, verset 2. Mais le mot consommateur, c'est un mot qui a changé de sens en France. On pense à quelque chose qui brûle ou qui se consomme. Mais là, c'est juste que c'est celui qui l'amène à la fin. C'est pourquoi la nouvelle traduction, il a été écrit qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et donc, le Seigneur, c'est celui qui va terminer notre foi. Alors, nous, nous avons la foi. Mais c'est lui qui nous aide, et le jour où il faudra partir, c'est lui qui va mettre le sceau et dire, voilà, c'est fini, c'est terminé, je suis le chef et le consommateur, le début et la fin de votre foi, l'alpha et l'oméga. Voilà. Et juste quelques moments pour parler de l'avenir. Alors là, je vais vous amener sur une montagne. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à monter? 920 mètres, il faut monter, là. Sur le mont Morija, en Genèse 22, hein, qui est-ce qui est monté sur le mont Morija? Abraham avec son fils Isaac, hein, Et quand ils sont montés sur le mont Morija, est-ce qu'Abraham avait le cœur léger, hein? Est-ce qu'il se disait, voilà, je profite du soleil de... Non. Il avait le cœur très lourd, hein? Le Seigneur lui a dit, tu vas aller sacrifier ton fils, hein? Voilà, ton fils unique, hein? Et il a jamais demandé à aucun d'entre nous pourquoi. Parce qu'on l'aurait pas fait. Voilà, hein? Mais Abraham, il est parti, il a voyagé à pied, et il est allé jusqu'au mont Morija, et il montait avec son fils, hein, en Genèse 22, et son fils a dit, il y a un problème. On a le feu, hein, parce qu'on prenait le feu dans un petit quelque chose pour qu'il reste allumé, on a le bois, et il manque l'agneau. Hein. Et Abraham a parlé prophétiquement, Genèse 22, verset 8, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Une fois qu'ils sont arrivés en haut, Abraham a dit, ben c'est toi. Et il a mis son fils, il a bâti un autel, il a mis son fils, et remarquez que son fils a obéi. Hein. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui obéissent comme ça aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est important, hein, l'obéissance. Son fils a obéi, et Abraham a levé le couteau pour sacrifier son fils. Et le livre aux Hébreux nous a dit qu'il pensait que Dieu allait le ressusciter. Hein. Mais Dieu n'allait pas le ressusciter, il ne voulait pas qu'il soit sacrifié. Et donc l'ange a arrêté sa main et lui a dit, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, tu m'as pas refusé ton fils unique. Hein. » Et donc, et puis là, il y avait un bélier qui était pris dans un buisson, hein, ça n'arrive jamais, hein, mais voilà, c'est arrivé ce jour-là, et il a pu le prendre et le sacrifier à la place de son fils. Et Abraham, là aussi prophétiquement, verset 14, a appelé ce lieu Yahvé Jireh, ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Et ça, c'est notre troisième mot en hébreu. Hein. Alors, le premier, c'est Eben Ezer. Hein. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà. Le deuxième, c'est Shakad. C'est plus difficile à se rappeler. Hein. Je veille. Hein. Je veille sur toi aujourd'hui. Et pour l'avenir, Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Le Seigneur marche devant nous, il connaît l'avenir, il sait et il pourvoira. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut regarder l'avenir avec confiance. Là aussi, Paul, dans l'Épître aux Philippiens, a dit, c'est la même phrase, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Et il a écrit ça aux Philippiens qui venaient juste de lui faire... Il était en prison et il manquait un peu de manger, etc. Ils lui ont fait une offrande qui lui a permis d'avoir largement ce qu'il lui fallait. Et il leur a écrit cette phrase-là. Et moi, je vous le dis aujourd'hui aussi, de l'aide de l'église d'Argenteuil et de l'aide de vos prières, même si certains ont donné, comme on dit, sacrificiellement, c'est-à-dire en faisant des sacrifices, l'Éternel pourvoira, l'Éternel interviendra. Et j'en profite pour remercier l'Église qui nous soutient fidèlement depuis des années, hein, je pense plus de 20 ans maintenant, hein, voilà. Et il y a du temps du pasteur Huffman, hein, voilà. Et donc, merci Seigneur, le Seigneur a pourvu, hein. Certains ont fait des sacrifices, certains ont donné leur dernier franc à l'époque, et ensuite euro, hein, et le Seigneur a pourvu, hein. Et on se remercie, hein, on vous remercie. Et en hébreu, verset 12, chapitre 12, verset 3, il dit, pour que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Parce qu'on peut être découragé, hein, on peut être découragé par sa santé, hein, quand on a des projets, on veut faire quelque chose et on est bloqué par la santé, on dit, mais alors Seigneur, qu'est-ce que c'est, hein? Et effectivement, on comprend pas toujours, mais lui comprend. Lui sait ce qu'il y a, comme le frère que je vous ai montré tout à l'heure, hein, Jean-Guy, hein, qui est bénévole, il nous aide beaucoup, et voilà qu'il a ce cancer de la prostate. Ça va mieux maintenant, hein, mais c'est des choses difficiles, mais le Seigneur pourvoira, hein, l'Éternel pourvoira. Des fois, quand on est missionnaire, on est découragé par le manque de fruits. Hein. J'ai connu M. Hoffmann au début. Bon, j'étais jeune, hein, mais ça, c'était dur de démarrer. Hein, c'était dur. Hein. Il y avait des gens contre lui, hein, qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Hein, et il a souffert, hein, mais il a tenu bon. Il est resté fidèle. L'apôtre Paul dit en Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne nous relâchons pas, comme ceux qui nous ont précédés, ne nous relâchons pas et restons fidèles, comme le Seigneur a été fidèle, comme il nous appelle à rester fidèles. Hein. Le Seigneur nous appelle à la fermeté, la conscience, l'opiniâtreté, hein, et rester fidèle, confiant dans sa promesse. Hein, et sa promesse en 1 Corinthiens 1:8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de Christ. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci. Et donc, ces trois versets, ces trois mots en hébreu, hein, voilà, donc, le Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Shakad, je veille sur ma parole, je veille sur vous. Et le troisième, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Le passé, le présent et l'avenir sont entre ses mains. Et il pourvoira, nous allons prier. Merci Seigneur de ce que tu as veillé sur nous depuis notre naissance. Tu as pourvu, tu as dirigé, tu as béni la naissance de cette Église et des autres. Tu as aidé ceux qui t'ont fidèlement servi pour ton œuvre, Seigneur. Merci de cette Église-là. Et de ce que tu bénis chacun. Aide personne, à ce que personne ne se décourage et que chacun puisse dire Ebenezer jusque-là, l'Éternel a pourvu. Que chacun se souvienne que tu veilles sur nous, Seigneur, jour après jour, chacun. Je veille sur vous, je ne vous abandonne pas. Quand tu ne me vois pas, je suis là avec toi, je veille sur toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et puis pour l'avenir, si je suis inquiet ou angoissé, le Seigneur dit, l'Éternel pourvoira, le Seigneur va pourvoir et intervenir en notre faveur. Merci Seigneur. Et je pense à chacun de ceux qui vit cette vie chrétienne, si le Seigneur vous a trouvé découragé, baissant les bras, en disant, voilà, j'en peux plus, j'arrête ou je ralentis, eh bien qui vous fortifie ce matin et qui vous aide à repartir de l'avant, entièrement engagé et fidèle pour lui, en sachant qu'il veille sur vous, qu'il pourvoira pour l'avenir, il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Et dites-lui, dans votre cœur, dites, Seigneur, aujourd'hui, je te demande, fortifie-moi, je te demande pardon d'avoir baissé les bras, je te demande pardon de m'être laissé aller, Seigneur, je veux avancer, je veux persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer dans le témoignage, que tu sois glorifié, exalté et béni en toutes choses, Seigneur, nous t'exaltons. Amen.